Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Constance Debré.
Bonsoir.
Constance Debré parle d'amour comme on parle de sexe, et de sexe comme on parle d'amour. Qu'elle hésite ou s'agace, fonce ou guette, elle ne lâche jamais le nerf de l'instant, du détail, veut savoir où ça mène, pas d'où ça vient, cherche la fête, et tant pis si ça tourne au désastre. Ces mots sont les mots de Claro, qui parle de ce livre que vous venez de présenter ce soir, Playboy, aux éditions Stock. Et qui résume, je trouve, assez bien, finalement, les multiples aspects qui sont présents dans ce roman, qui contient beaucoup plus de choses que ce que l'on pourrait soupçonner quand on soupèse le livre, quand on regarde la quatrième de couverture. Est-ce que vous avez choisi ce titre en référence à Dutron ou plutôt à Hugh Hefner pour Playboy, hein ?
Aux deux.
Aux deux ?
Aux deux. J'aime bien qu'il y ait une ambiguïté, y compris dans un titre très simple.
Alors, vous avez donc c'est un premier roman, bon, même si vous avez écrit deux ouvrages. Alors, si j'ai bien compris de ce que je vous ai entendu dans différents, soit dans la presse, soit dans la radio, les deux livres que vous avez écrits précédemment, c'était une autre personne finalement qui les avait écrits. Là, vous êtes un peu dans une nouvelle vie, dans un nouveau vous, et finalement, ce livre serait une sorte de premier roman. Mais vous avez déjà écrit avant. Enfin, vous êtes donc avocat. Préparer vos plaidoiries, j'imagine que vous les écrivez aussi. Vous avez écrit aussi des discours pour Bernard Accoyer lorsqu'il était président.
Pas que.
Lorsqu'il était président donc, de l'Assemblée nationale. C'est assez surprenant de savoir que les hommes politiques n'écrivent pas eux-mêmes leurs propres discours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce travail d'écriture assez particulier d'écrire, non pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre ?
Plusieurs choses, oui. Je pense que j'ai finalement, même si j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, je continue à en faire plusieurs. La question du discours, largement entendu, quelque chose qui m'a toujours intéressée. Encore une fois, par le discours politique, et je répondrai à votre question précisément, par le discours qu'on tient quand on plaide. Et évidemment, on est au plus près de la question du discours, je pense, par l'écriture. Trois exercices différents, évidemment. Le discours politique, c'est une curiosité, c'est comme ça. Effectivement, mais c'est quelque chose qui est très connu. Les hommes politiques n'écrivent pas ou plus, ou rarement, en tout cas, ce qu'ils prononcent, les discours qu'ils prononcent, et peut-être même, je ne sais pas si tous les livres qui sont signés par eux sont écrits par eux, c'est une autre question. Peut-être un marché, justement, comme ça. Oui, c'est surprenant. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est surprenant.
Et est-ce que ça vous a aidé, justement, dans votre... Est-ce que ça vous a poussé, en fait, dans cette envie d'écrire, non plus pour les autres, non plus pour quelqu'un d'autre ? Parce que quand vous ne plaidez pas pour vous, vous plaidez pour défendre quelqu'un, et là, c'était écrire pour vous, pour être lu, mais surtout pour vous.
Ça peut être très, très amusant d'avoir un masque et d'écrire tout à fait pour le discours politique. Ça peut être amusant de... on n'écrit pas pour soi, on ne choisit pas ce qu'on veut dire. Bon, ça, c'est... Voilà, très bien. Pour ce qui est de la plaidoirie, il y a le confort de la forme, c'est-à-dire que là, pour le coup, on connaît le point de départ. Le point de départ, c'est un dossier et une personne. Et le point d'arrivée, idéal, c'est quand c'est possible, effectivement, la relaxe ou l'acquittement, puisque je fais du pénal, hein, ou sinon, quand les faits sont établis, que la question de la culpabilité ne se pose pas, la peine la moins lourde possible. Et entre ces deux points, en réalité, contrairement peut-être à ce qu'on croit, mais pardon de parler un peu de droit, on parlera d'autre chose après, mais enfin de droit, c'est pas de droit d'ailleurs. Mais, entre ces deux points, l'avocat ne fait d'abord que, à mon avis, dire la vérité, voilà, ce qu'il pense être la vérité du dossier. Et la vérité de la personne pour qui il plaide. Voilà. À un moment, ce type, cette femme, c'est quand même plus souvent des hommes, quels que soient les faits qu'il a commis ou qu'on lui reproche, est dans cette position absolument incroyable, d'être accusé par l'État et par la société. Bon. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut parler pour lui, c'est nous, les avocats. Donc ça, c'est quelque chose de très beau. Et donc voilà, on essaye vraiment, je crois qu'il y a une recherche de vérité quand on plaide, enfin. Et les avocats parlent toujours à partir d'eux-mêmes. C'est un exercice qui est extrêmement personnel, à la fois pour l'autre, donc on s'efface complètement, et à la fois très personnel, parce que c'est par rapport à notre expérience, à chacun, qu'on va parler de la personne qu'on défend, et pour essayer de la faire comprendre. Hein, faut que ça résonne chez les juges ou les jurés. Qui vont, eux, décider du sort de l'accusé. Voilà.
Alors, je vous posais cette question, puisque c'est ce que je ressens à la lecture de l'ouvrage. C'est vraiment, vous partez de vous-même, vous êtes dans une forme auto-fictionnelle. Vous dites « je », mais ça pourrait être une narratrice qui n'est pas vous, finalement. Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une création littéraire? Et en même temps, vous parlez vraiment de vos expériences propres pour vous adresser au plus grand nombre et pour être le plus juste possible. Ma question, c'était vraiment de savoir si cet exercice de plaidoirie et de votre activité d'avocat vous avez influencé dans la manière d'écrire ce roman, ou si vous avez essayé de vous en affranchir de suite, en disant c'est un exercice complètement différent.
J'avais pas fini, en fait. Enfin, non, mais c'est pas du tout. C'est moi qui avais oublié ma fin et qui était de dire que oui, bien sûr que j'ai voulu aussi aller plus loin que ce que je pouvais faire au barreau. D'abord, j'adore cette parole écrite qui se perd, qui est gratuite et qui est... voilà, il y a une sorte de miracle de l'instant, hein, dans la plaidoirie, et en même temps, de quelque chose d'extrêmement frustrant, d'une part, et d'autre part, c'est formidable de pouvoir parler pour quelqu'un dans un dossier, etc. Mais bien sûr qu'on a un désir de dire plus, d'avoir un exercice, une occasion de souveraineté beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'il y a comme souveraineté plus grande que, je ne dirais pas une feuille blanche, mais un doc world qui s'ouvre. Et là, on dit, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, avec ces petits caractères qui sont tous les mêmes, ces mots qui sont... utilisé tous les jours, on a fait des milliers, des millions de livres, en fait, on s'aperçoit que la moindre phrase est totalement singulière et qu'en réalité, elle n'a jamais été dite par personne. Qu'est-ce qu'on veut dire? Allons-y. Voilà. Et oui, bien sûr que... Et je pense qu'il y a... Oui, j'ai choisi l'autofiction, c'est pas vraiment... Je sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Mon but, c'était pas de raconter ma vie. C'était à partir effectivement du jeu qui me paraît la forme la plus directe, tout simplement, la plus directe. Voilà, je ne voulais pas d'artifice, donc j'ai choisi le jeu. Et à partir de là, d'essayer de dire ce que pouvait être, à partir d'événements que je raconte, mais ça aurait pu être peut-être à partir de n'importe quels événements, d'exprimer ce que c'est un peu que l'existence, voilà, à un moment donné, à partir de moi, avec ce truc qui s'appelle les mots de la langue française, voilà, et de façon aussi directe que possible, par le jeu et par le choix des mots, par le choix d'une langue que j'ai voulu extrêmement simple. Travailler sans que ça se voit et moderne, si on peut dire, parce que je cherchais aussi quelque chose de contemporain. Il me semble absolument, enfin, en tout cas, c'était l'exercice aussi qui m'intéressait. C'est très bien. C'est quoi de vivre, mais c'est quoi de vivre aujourd'hui? Bon, et évidemment, par un récit totalement singulier. Il me semble toujours qu'il faut aller au bout de la singularité et de l'intime pour essayer de parler de choses universelles. C'est aussi, ça, c'est quelque chose sans doute que j'ai ressenti en étant avocat, c'est que dans les histoires qui nous semblent les plus éloignées possibles des nôtres, dans des vies qui n'ont absolument rien à voir, je vous assure que quand on fait du pénal, on rencontre des gens qui n'ont pas tout à fait nos vies, en fait, on retrouve les mêmes émotions, les mêmes situations qu'on a tous vécues. Voilà. Familiale, affective, d'humiliation, de désir, de frustration, de tout. Voilà. Je suis persuadée que la vie humaine est composée de situations, d'accidents, d'émotions qui sont en fait assez réduites. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, on éprouve tous les mêmes choses à travers des vies très différentes, mais finalement, c'est toujours la même chose. Et pourtant, chaque fois qu'on essaye de le raconter, chaque fois qu'on ouvre un livre, chaque fois que vous racontez vos histoires aux uns et aux autres, c'est à la fois complètement différent, toujours différent, et toujours un peu la même chose. Ce qui fait qu'on arrive à se parler, d'ailleurs. C'est pas si mal.
Pour rester dans les prémices, en fait, dans les coulisses, en fait, de l'écriture, vous parlez donc du choix de langage très contemporain, de ne pas s'interdire d'utiliser des gros mots, des choses qu'on ne voit pas tout le temps en littérature, de faire des phrases simples, travaillées, effectivement, sans qu'on donne l'impression que ça se voit, que ça saute au visage, le labeur de l'écrivain derrière son écran. Il y a aussi un choix de l'oralité dans ce texte. En le lisant, l'impression que j'ai eue, c'est que presque en le déclamant, finalement, qu'en le lisant à haute voix, certains passages résonnaient mieux, comme s'ils avaient été vraiment écrits pour qu'on puisse les dire, Est-ce que c'était quelque chose qui était là dès le départ, ou c'est un hasard, ou encore une fois, en fait, c'est votre écriture qui est faite pour être lue ou déclamée?
Deux choses. La première, c'est que, encore une fois, j'aime la littérature qui parle de l'époque. Je crois qu'elle ne fait que ça, la littérature. Enfin, voilà, elle parle de l'universalité, mais toujours incarnée de façon singulière dans les êtres et dans leur temps. Et que je n'aime pas l'idée d'une littérature ou d'une écriture qui serait figée dans un français, en gros, je ne sais rien, 20e siècle, début du 20e siècle, etc. Non, je crois que la langue est extrêmement vivante, il faut se l'approprier. C'est une chose qu'on mange, qu'on recrache, qu'on déchire, voilà, enfin, c'est ça qui est quelque chose d'extrêmement vivant. Et j'aime beaucoup la langue de notre époque, celle qu'on entend en terrasse des cafés, celle qu'on entend chez les ados, les un peu moins ados, tous ces mots, cette langue qui est nôtre, qui est faite évidemment de beaucoup d'anglais, la langue des textos. Oui, j'aime jouer avec la langue. Et je voulais vous dire une deuxième chose, je ne sais plus quoi. Voilà. Rappelez-moi votre question, je suis désolée.
Non, ma question, c'était justement sur l'oralité, sur le fait.
Ah oui, sur l'oralité. Oui, bien
à
sûr.
Haute voix,
c'est pas un hasard. Non, c'est quelque chose. On se relit beaucoup quand on écrit. Et c'est la musique de la langue que je recherchais. Oui, bah, peut-être parce que j'en sais rien, parce que c'est comme ça, parce que la langue, à mon avis, c'est à la fois écrit et parlé. C'est d'abord parler. Et quand on lit, j'aime cette. Je trouve que le corps de la langue, c'est ça. Voilà. C'est son rythme, c'est son flow. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une musique, un peu.
Il y a un sens de la punchline sur certains passages. On sent vraiment qu'il y a des phrases. On y viendra tout à l'heure, parce qu'on fera quelques lectures. Pour vraiment on puisse comprendre ce qu'il en est exactement. Il y a quelque chose effectivement de très très musical dans la forme courte, presque comme une chanson. Le choix des chapitres très courts, c'est aussi une volonté d'être hyper incisive, de pas se perdre en fait dans les détails qui pourraient être de passer à côté de quelque chose, de pas prendre le temps finalement de se perdre.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a mon rapport à l'ennui ou ma phobie de l'ennui. et qui est aussi dans ce récit, c'est-à-dire que les événements que je raconte, cette période-là dont j'ai fait un livre, est une période qui est un désir de s'arracher à l'ennui complet. Donc il fallait aussi que ce soit dans le ton du livre, très ramassé, les chapitres courts et les phrases courtes. Et par ailleurs, il me semble aussi, encore une fois, que c'est quelque chose qui marque notre époque, jusqu'à une espèce d'angoisse et de course et de du mal, à mon avis, très contemporain, qui est certainement général, mais qui est encore plus marqué à notre époque. C'est ce désir de raccourcir le temps, qui dit aussi les zappeurs fous qu'on est devenus. Voilà, un livre nous ennuie, on est là, on cherche le téléphone, on regarde les textos, Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Il faut qu'il se passe quelque chose, non pas dans la semaine, non pas dans la journée, mais dans les 10 minutes, sinon quoi, en fait, hein, j'en sais rien. Mais voilà, oui, c'était quelque chose dont je voulais imprégner le livre, quelque chose qui soit tendu comme cette angoisse-là et cette recherche de dose, hein, qui nous sauve de nous-mêmes.
C'est ça le cœur du livre. C'est à la fois un livre qui parle d'une première fois, et on va y venir, en fait, cette découverte, ce moment où vous tombez amoureux, mais vous tombez amoureux finalement d'une quelque chose de nouveau. De l'inconnu, avec un grand I quelque part, c'est la découverte de votre désir et du désir de l'autre et du désir féminin. Il y a quand même une grande réflexion justement sur votre désir à vous, ce que c'est le désir féminin. Donc, et la recherche de soi, une certaine quête d'absolu aussi. Est-ce que à la fin de l'écriture de cet ouvrage, vous vous êtes trouvé ou est-ce que vous êtes toujours en recherche? Est-ce que d'abord on peut se trouver finalement?
Je sais pas si j'ai envie de me trouver. Non, ce qu'il faut, c'est vivre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Il ne s'agit pas de se... il faut qu'il se passe des choses. Et bien sûr qu'il y a un goût de l'absolu, oui. C'est un livre de Barrès. Hein, qui est, je sais plus, mais il y a un goût de l'absolu et de vérité. Même si la vérité, dès qu'on la saisit, c'est du sable qui vous glisse entre les doigts, et il faut en trouver une autre. Mais malgré tout, on avance. C'est pas très bien qu'on avance. De toute façon, c'est comme le vélo, faut pas s'arrêter de pédaler sinon on tombe. Donc non, il n'y a pas de solution, mais Dieu merci, parce que sinon on trouverait une solution et il se passerait quoi? Non, continuez à chercher.
Vous vous ennuyez beaucoup dans le roman? Dans le livre, en tout cas dans les différents passages avant la rencontre, c'est vraiment cette notion d'ennui que vous venez d'évoquer. Donc il y a cette variation en fait, de tromper l'ennui. Vous dites à plusieurs reprises hein, rien m'ennuie, les vies normales, je ne les comprends pas. Est-ce que vous n'avez pas un peu provoqué justement cette manière de tromper l'ennui, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tombe dessus? J'essaye de rester très vague hein, pour l'instant, et ensuite on verra justement le cœur de l'ouvrage.
Je pense que quand on a cette sensibilité à l'ennui, on a les deux. C'est-à-dire que, on s'ennuie, mais... Alors, soit on est écrasé d'ennui, et voilà, très bien, il se passe rien. Soit on a ça, et du coup, on est à l'affût de l'événement. Avec une grande curiosité pour tout. Pour tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut attraper qui vous... Parce que, oui, c'est quelque chose qui vous pousse vers le monde aussi, l'ennui. Qui vous pousse vers le monde, vers les autres et vers la vie. C'est pas quelque chose uniquement de négatif. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'ennui, je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de livres, de la musique, et si on aurait construit des cathédrales, en fait. Hein, si la vie était bien comme elle est, qu'est-ce qu'on ferait? Pas grand-chose. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable, l'ennui. Le meilleur des moteurs.
Pour la création,
mais pour la vie elle-même, pour le plaisir, pour le désir, pour l'amitié, pour l'amour, les symphonies et les grands romans, ou les plus petits.
Il y a un auteur, en fait, alors qui n'est pas cité dans l'ouvrage, hein, et pourtant qui, dans le fantôme plane un peu au-dessus, à travers, justement, au fil des pages, c'est Guillaume Dustan. Alors, Le rapprochement peut être vite fait parce qu'on s'est dit, oui, lui aussi était juriste, lui aussi écrivait sur la sexualité, sur l'amour, et donnait aussi une réflexion sur le monde, sur son monde contemporain, sur la contemporanéité, sur ce qui l'entourait. Est-ce que justement ce rapprochement avec Dustan, c'est quelque chose dont vous avez eu conscience ?
D'abord, c'est un rapprochement qui me flatte, parce que Guillaume Dustan est pour moi un très grand écrivain. C'est en effet un garçon, je ne sais pas si très connu par vous, mais un garçon qui était un peu plus âgé que moi, qui est mort maintenant, qui était énarque, et effectivement juge administratif, et qui a écrit sous un, pour le coup, sous pseudonyme, puisque Guillaume Dustan n'est pas son vrai nom, il s'appelait William Baranès. Des livres tournant de... Enfin, voilà, je crois que c'est le premier 2000, enfin, ou 96, 96 je crois, le premier.
90, début 2000.
Voilà. Donc, à un grand moment, justement, de l'autofiction, c'est le moment où apparaissent les écrivains. Alors, il y a lui, il y a Virginie Despentes, pas dans l'autofiction, mais dans un truc comme ça très... il y a une génération d'écrivains. Ou Christine Angot dans un autre genre. Des livres très très moi que je trouve très très beaux, mais qui sont très durs, très 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 violents, et à la fois avec une grande pulsion vitale, qui écrit, lui il écrit de façon extrêmement cash, alors plus que moi, sur sa sexualité, dans une langue qui est à la fois extrêmement moderne et pour moi qui est aussi belle et aussi pure que le français des moralistes du 17e. Et que j'ai beaucoup lu Dustan, effectivement, notamment au moment où moi je me mettais à ce livre. Donc oui, bien sûr qu'il m'a beaucoup influencé. C'est important d'avoir des influences. On les choisit quand on écrit. On n'écrit jamais à partir de rien. Enfin moi pas.
Alors il n'y a pas que les influences, c'est aussi votre vécu qui vous permet d'écrire.
Bien sûr.
Puisque le roman commence en tout cas par une rencontre. Par la personne en fait qui va vous faire découvrir, ou en tout cas avec qui vous allez découvrir à deux finalement, une certaine forme d'amour. C'est peut-être pas le grand amour dans un premier temps, vous savez pas trop. Cette personne, vous la rencontrez au tribunal, hein, c'est la mère d'un prévenu que vous avez défendu. Et ce que je trouve intéressant, alors ma question c'est savoir si c'est une personne ou si c'est un personnage. Est-ce qu'elle condense plusieurs personnes, admettons que ce soit un personnage, assez archétypal de ce qu'on pourrait rencontrer. Il y a plusieurs... Alors, c'est un peu compliqué sans avoir lu le livre, de se rendre compte de ce qui se passe, mais vous rencontrez plusieurs histoires d'amour, en fait. Une évolution. Un premier personnage, vous appelez Agnès, qui est un peu fuyante, qui passe son temps, finalement, à minauder, à venir vers vous, à repartir. Elle vous présente son mari, elle vous parle de ses amants, vous partez en vacances. Vous avez plusieurs expériences, vous faites l'amour avec elle, vous découvrez des choses avec elle. Et puis finalement, il y a la lassitude qui s'installe, comme si vous avez été aussi un vieux couple. Et tout ça dans un temps très, très, très resserré, finalement. Et puis vous rencontrez Albert, qui est la fille d'un ami de votre père, Albertine, que vous appelez Albert. Et puis là, se passe quelque chose de différent encore, quelque chose de plus flamboyant, de plus rapide. Et puis là, encore une fois, ça s'arrête. Vous revenez vers Agnès, ou Agnès revient vers vous, on sait... Finalement, jamais une espèce de tourbillon aussi comme ça qui se fait. Comment vous arrivez à articuler tout ça, en fait ?
Je crois que avant ces rencontres, il y a quelque chose, c'est-à-dire que le personnage, oui, pas parce qu'il y a du faux dans le vrai ou du vrai dans le faux, ça, c'est peu importe, mais c'est que sauf à tenir un journal et même si en tenant un journal, c'est rien. À partir du moment où on écrit, on travaille les choses, on cherche une manière, on cherche une langue, tout devient... les êtres à partir desquels on écrit deviennent des personnages. Le jeu, donc moi-même dans ce livre, c'est pas exactement moi dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Bon. Alors, le point de départ, c'est qu'effectivement, la narratrice, donc moi, c'est après avoir longtemps vécu, après une longue vie, enfin une longue vie, 20 ans avec le père de mon fils, voilà, un moment de je le quitte, et on sent, je crois, enfin c'est ce que j'ai voulu dire, un personnage qui cherche à ce qu'il se passe quelque chose. Il y a déjà un désir de table rase, ne serait-ce que physiquement, dans la mesure où, d'un coup, c'est, je passe à un appartement, hein, je prends un studio, enfin un petit appartement avec mon fils, et il y a plus, je jette tous les meubles, je ne veux plus rien, en fait. Voilà, je ne veux plus rien. Et il y a une sorte d'attente de quelque chose de neuf. Et quelque chose de neuf, ça va effectivement être... Une rencontre avec une femme, une histoire d'abord, ça va prendre du temps, mais sentiment amoureux d'abord, et oui, bien sûr que, et l'amour, quel qu'il soit, et a fortiori quand c'est une première fois, quand c'est aimé l'autre genre, alors là c'est encore plus, mais l'amour, quel qu'il soit, c'est la possibilité de l'absolu. Bien sûr que c'est certainement une illusion, et on le sait tous, mais. Ah oui, alors là, quand on veut qu'il se passe quelque chose, c'est merveilleux. Et encore une fois, et en plus, quand c'est quelque chose qui est neuf, qui ne va pas de soi, qui vous trouble vous-même sur votre propre identité, et qui paraît incroyable. Toutes les premières fois paraissent incroyables. Donc, il va y avoir cette première histoire avec ce personnage, Agnès, qui apporte beaucoup parce que c'est une première fois. Alors oui, après, c'est une histoire d'amour qui n'apporte pas tout ce que j'attends. Et puis ensuite, un deuxième personnage féminin, que j'ai un petit clin d'œil à Proust, Albertine, qu'on appelle Albert, qui va avoir l'intensité qu'attendait la narratrice après beaucoup d'ennuis, et encore une fois d'un ennui heureux. Mais il fallait autre chose, il fallait une autre manière d'aimer. Et donc d'une certaine manière, Albert remplit absolument le contrat. Voilà. Mais après, évidemment, l'amour ne vous sauve pas de vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres sujets en fait dans ce livre qui apparaissent au fil des histoires d'amour, et voilà, enfin sur parce qu'à un moment on se retourne sur soi un peu quand même.
Oui, parce que c'est un prétexte dans le point de vue purement narratif.
C'est un voyage.
Enfin, c'est un voyage qui vous permet aussi d'aborder des sujets qui, alors, vous tiennent à cœur, ou en tout cas qui disent beaucoup de l'époque. On a évoqué l'ennui et la nuit dans le couple. Mm. Alors, le livre commence là-dessus. En fait, vous dites, c'est la base de la vie de couple de s'emmerder. La vie de couple ou la vie tout court. On était compatibles sur ce point, Laurent et moi. Donc Laurent, votre ex-mari. Il fume, c'était son activité principale, son rapport au monde le plus fondamental. C'est pas si bête. Alors, vous allez plus loin, effectivement, sur la réflexion de l'ennui. Il n'y a pas que l'ennui, il y a effectivement une réflexion sur le genre, sur son identité. Ça, j'aimerais savoir si vous pouvez nous lire ce passage qui est page 79, où vous parlez de votre enfance et de qui vous étiez, finalement, à cette enfance-là.
Et juste pour avant de lire ça, oui, y a, quand je parle de désir de table rase, c'est. Et donc, bien sûr qu'il y a quelle identité, c'est non pas un désir d'appartenance, mais avant tout un désir de, justement, voilà, de liberté. Par rapport à mille choses, ça va être aussi les questions de milieu, enfin, la famille, un truc sur les milieux sociaux, sur le métier. Il y a un moment, on coupe tout, on arrête tout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que vraiment c'est moi dans tous ces pans qui font ma vie? Et puis on va essayer d'autres choses. Et voilà, il y a un peu de ça. Il y a un âge de l'enfance où on sait exactement ce qu'on veut. Après, on ne sait plus. Après, on ne se souvient plus. C'est simple ce que je voulais à 4 ans. C'était les cheveux courts, des vêtements de garçon, des jeux de garçon, une vie de garçon. jusqu'au maillot de bain, jusqu'au même short rayé bleu et blanc que mes cousins, que je portais l'été. Je n'étais gênée de rien, il n'y a pas de gêne à cet âge. Les autres enfants m'acceptaient comme ça. J'étais la fille qui jouait avec les garçons. J'étais avec eux, j'étais leur égale. C'était comme ça, et tout le monde le savait. Personne n'aurait eu l'idée de m'offrir une Barbie pour mon anniversaire. On avait eu une discussion claire sur le sujet avec ma mère. On était en voiture, elle conduisait vite, elle conduisait bien. Elle m'avait dit que ce n'était pas grave d'aimer les filles si on était une fille. Avec mon père, j'allais aux puces chercher des vêtements militaires. C'est lui qui m'a appris à faire un nœud de cravate, qui m'achetait des maquettes. C'est lui qui m'a fait lire Tintin et Philémon, Rimbaud ou Malaparte plus tard, qui m'a fait aimer les Stones, Johnny Cash ou Arlo Guthrie. À 4 ans, j'étais homosexuelle. Je le savais très bien et mes parents aussi. Après, c'est un peu passé. Aujourd'hui, ça revient. C'est aussi simple que ça.
Voilà. C'est ça, le cœur de l'ouvrage. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand on lit, quand vous parlez d'amour, vous parlez de votre expérience, une femme qui aime une femme, mais ça pourrait être aussi bien un amour purement hétérosexuel. De la même manière, le sujet, en fait, c'est l'amour, l'amour avec un grand A, ou le petit amour, et pas forcément uniquement ce...
Non, le sujet c'est la liberté, c'est comment est-ce qu'on essaye de devenir libre en sachant qu'on n'y arrive jamais complètement, mais c'est une conquête sur soi constante, quelles que soient les manières dont on, dont on définit sa propre quête. Et au début, être libre, mais ça peut être rien, j'en sais rien, ça peut être d'apprendre à faire du vélo ou à apprendre une langue, j'en sais rien. Au début, c'est très compliqué, en fait, de s'agrandir soi-même, hein, de s'affranchir. C'est très difficile. Et une fois que c'est fait, bah oui, c'est très simple. Voilà. Et donc, et le simple fait de dire « c'est aussi simple que ça », en fait, cette seule phrase-là, pour n'importe quoi, ça vous libère. Voilà. Poser les choses et dire « c'est comme ça », c'est génial. Moi, c'est ça. Moi, je cherche des potions magiques. J'ai une sorte de couteau suisse et qui fait que j'essaye de dire ah ben en fait, c'est aussi simple que ça.
Il y a beaucoup
de. Parce que bien sûr que c'est jamais si simple.
Oui, bien évidemment.
Voilà. Mais une fois qu'on dit que c'est aussi simple que ça, on dit ah ben oui, c'est vrai. Ah, ça y est.
Il y a beaucoup d'humour dans le livre. Il y a aussi beaucoup de provocation. Alors, c'est de la provocation complètement assumée. J'imagine.
Ah oui, mais je trouve que c'est très drôle la provocation. Mais c'est dans ce que ça a d'enfantin. Moi, j'aime beaucoup les blagues potaches. Je trouve qu'il y a quelque chose de très de l'ordre de la pulsion vitale, encore une fois, de vivant qui me plaît. Et donc, je résiste pas au plaisir, voilà, d'en faire un peu. Et ça n'a pas plus d'importance que ça, à mon avis, encore une fois.
Notamment quand vous parlez du corps des femmes, on n'est pas habitué à lire ce genre de choses, à avoir ce genre de regard. Enfin, en tout cas, pour ma part, en tant que lecteur, j'ai été très surpris d'avoir un témoignage aussi cru. Et en même temps très fidèle, qui me renvoie à ma propre vision. C'est ça que je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, mais finalement, on ressent finalement les mêmes choses. Et il y a quelque chose vraiment de très très juste. Quand vous dites, quand vous regardez une femme dans la rue et que vous arrêtez sur un détail et que vous dites que vous comprenez les hommes, même les plus mauvais finalement, que vous comprenez cette pulsion qu'il peut y avoir de désir en fait qui vous submerge tout d'un coup, c'est quelque chose de.
Alors, pour ce qui est de la provocation, il y a plusieurs choses. Pour le coup, je pense qu'il y a plusieurs types de provocations. Il n'y a pas que ça dans le livre, mais il y en a un petit peu. Apparemment, il y a vraiment d'audace, notamment dans les passages familiaux. Bon, très bien. De vannes, je dirais presque. Hein. Bon. Pour ce qui est de ma façon de parler des femmes. La première réflexion, c'était d'abord comment est-ce qu'on parle d'amour. Bon, comment est-ce qu'on parle d'amour? Ben, il faut parler de sexualité, parce que, enfin, je veux dire, sinon on ment, en fait. C'est toujours ça, c'est la question de la vérité. Sinon, on ment. Voilà. Et comment est-ce qu'on parle de sexualité? Est-ce qu'il faut avoir une sorte de pudeur qu'on n'a pas dans la vraie vie quand on en parle les uns aux autres? Quand j'entends aux terrasses de café les gens de mon âge ou plus jeunes ou pas plus jeunes en parler, voilà, les gens en parlent vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'un livre, pourquoi est-ce que la littérature qui est censée dire plus que dans la vie, qui est censée dire tout ce qu'on n'arrive pas à dire dans la vie, tout ce qui fait qu'on étouffe dans nos vies, serait tout à coup, une sorte de draperait dans une pudeur qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Et là, c'est pas de la provocation, c'est de dire simplement les choses, et c'est pas de la provocation. Je cherche pas. C'est pour moi pas un truc porno, un sujet. C'est pas. Voilà. C'est pas ça, il n'y a pas de provocation. Dire simplement les choses qui n'ont pas à choquer, elles ne sont pas choquantes. Voilà. Après, par exemple, pour ce passage un peu direct, mais oui, et bien sûr que quand tout à coup on découvre en vrai, si j'ose dire, la beauté des femmes, et en étant une, bon. Tout à coup, oui, bien sûr qu'elle regarde les filles différemment dans la rue. C'est quelque chose de merveilleux. Tant mieux si les hommes me le confirment, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé les discussions que j'ai eues avec les garçons après ce livre.
Mais il y a quelque chose de troublant, en fait, dans l'image qu'on se fait de la sexualité de l'autre, hein, de la sexualité de l'autre genre, d'où l'homosexualité, quand on les passe soi-même. Quand on n'est pas une femme qui aime les femmes, quand on est un homme hétérosexuel, et qui se dit, mais finalement, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est voilà, il y a cette espèce d'évidence, en fait, à vous lire, qui remet un peu les choses à plat, surtout en cette période qui est toujours un peu compliquée. Mais justement, vous arrivez, malgré le côté qui peut paraître provocant, qui peut paraître un peu rentre dedans ou de dire d'être un peu cash. En fait, avec les choses, de remettre un peu les choses à plat. Vous êtes beaucoup plus méchante sur d'autres sujets, en tout cas sur les rapports de classe et sur les rapports de l'argent. C'est des passages extrêmement cruels, moi je trouve très drôles, qui là, pour la peine, peuvent vraiment blesser les gens. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage page 61. Il y a trois passages sur le fric. Il y en a trois que j'ai retenus. Ouais. Page 61, il me semble que vous parlez de la petite bourgeoisie.
Oui.
Page 70, ou pas, voilà.
Oui, je crois que, et j'en parlerai après, mais je pense que je suis plus dure, parce que je pense que pour le coup, là, il y a bien sûr qu'il y a une violence, plus de violence dans ces sujets-là que... Voilà, que le reste. Je croyais que j'étais pas snob. Je croyais que j'allais avec tout. Les aristos de province, les ex du palace, les nostalgiques de trust, les conseillers d'État, les flics, les putes, les dealers, les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, les normaliens, les sans-papiers, les gigolos, les mondains et les paumés. Des parents bourges et toxicaux, ça forme. Et puis le boulot aussi. Mais la petite bourgeoisie, j'avoue, je connaissais pas. On m'avait pas dit que ça existait. Je l'avais jamais rencontrée. Ce sont ceux que des gens comme moi ne voient jamais. J'ai des réflexes de classe avec elle, quand elle dit mince, quand elle dit môme, quand elle me vouvoie pour faire chic, quand elle enlève ses chaussures chez elle ou qu'elle dîne un peu tôt. C'est plus fort que moi. J'essaie de me corriger. Je me dis que ça sert aussi à ça, l'amour.
Et page 70, hein, le rapport justement au fait à la richesse et à la pauvreté.
Alors, je suis riche et elle est pauvre, c'est pour ça que je vais gagner. C'est obligatoire. Les riches gagnent toujours. Et les pauvres crèvent toujours. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute si ce sont les riches qui gagnent. C'est pas ma faute si je suis riche. Je suis née comme ça. C'est dans mon ADN tellement c'est ancien. Je suis née de parents riches qui avaient des parents riches. Je suis riche sans un copec, sans appart. Riche à 10 euros par jour, clope comprise. Riche sans rien. Mais si riche que je m'en fous d'être pauvre. Techniquement à la rue, mais ontologiquement pété de thunes. On n'a pas besoin d'argent quand on est riche. On n'a pas besoin des autres quand on est riche. On n'a besoin de rien quand on est riche. C'est une question de honte qu'on n'a jamais. Les pauvres ont bien raison de nous haïr.
Elle est incroyable, cette phrase. Les pauvres ont bien raison de nous haïr.
Ils ont bien raison de nous haïr, bien sûr. Bien sûr. Parce que... Puis non, je suis vraiment pauvre. Hein. Vraiment, mais je ne le serai jamais. Oui, bien sûr que je ne serai jamais. Je ne serai jamais comme les types que je défends. Je ne serai jamais. Et du coup, parce que... oui, c'est ça. C'est toute la... Enfin, y a la violence de l'argent, il y a la violence des classes sociales, il y a la violence de mille choses. Et oui, je sais que je pourrais tout faire. Je serai toujours ma culture, je serai toujours mon nom, je serai toujours mille choses. Qui fait que ben voilà que je suis avocat ou que j'écris un livre, que j'arrive à trouver des mots. Justement, j'arrive à trouver des mots pour dire ce que je veux dire, pour dire que je suis pas d'accord, pour que je me laisse pas intimider. Cette question des classes sociales, au-delà de la question de l'argent, et quand je dis c'est une question de honte qu'on n'a jamais, c'est ce truc qui est complètement fou, qui est celle de l'aisance. Et ça, c'est évidemment d'une injustice folle. Mais que ouais, je serais toujours plus libre que les autres avec ça. Et quand je veux me défaire de quelque chose, y compris par exemple là, en l'occurrence, et à ce moment-là du livre, d'un personnage qui ne m'aime pas comme j'aimerais qu'elle m'aime, je dis je m'en fous parce que je suis au-dessus. Et ça, c'est horrible, c'est d'une brutalité folle, mais ça me sauve. Bon, mais ça, c'est des choses qu'on éprouve tout le temps. Et je voulais parler de ces questions de classe sociale parce que là, je pense qu'il y a souvent une gêne à en parler, alors que ça imprègne toutes nos relations, y compris amoureuse, voilà, et que c'est évidemment totalement injuste. Mais est-ce qu'il y a de la justice dans les relations amoureuses? J'en sais rien. Le corps qu'on a, qui fait qu'on aime, qu'on n'aime pas, est-ce que c'est plus ou moins juste que la langue qu'on a, les parents qu'on a, l'argent qu'on a, le métier qu'on a? Pardon?
Les asticots aussi sont pour tout le monde.
Les asticots sont pour tout le monde, oui. Bah oui. Bah oui, mais c'est...
Cette lucidité, en fait, non, mais cette lucidité, en fait, dans l'écriture, dans votre existence, même dans les rapports de classe, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui, tout d'un coup, en fait, dans l'écriture, arrive.
Non, c'est quelque chose que
j'imagine que c'est beaucoup plus ancien, mais de vouloir le formuler comme ça, de dire, mais là, non seulement, je sais que cette phrase va choquer.
Ah oui, bah c'est. Parce qu'il faut le dire, parce que c'est quelque chose de constant. Moi, enfin, encore une fois, si je fais du pénal, c'est pas par hasard. Si j'aime bien, c'est que de la violence, le pénal. C'est la violence des faits, c'est la violence des situations qui fait que les gens que je défends se trouvent dans cette situation, que eux vont commettre un geste que d'autres ne commettront pas. C'est la violence de l'État, c'est évidemment la violence de la bourgeoisie qui va juger ce qui peut la menacer. C'est que ça. Et on n'en parle jamais, on ne dit jamais de quoi on parle derrière tout ça. Donc, bien sûr qu'il faut le mettre sur la table. Si je ne peux pas le faire dans un livre, à quoi ça sert? Donc, oui, bien sûr, j'y vais à fond et avec grand plaisir.
Est-ce que vous avez pensé à continuer dans cette voie-là, dans l'écriture?
Oui, de partir j'ai pensé,
sous la
oui.
forme de laisser, mais même non, en étant plus violent.
Ah,
en fait.
Sous forme de laisser, non.
Sous forme de laisser romancer, comme ce que faisait Dustin, qui parlait de lui, mais qui parlait beaucoup du monde. Je reviens à Dustin parce que justement, ce que je disais quand je vous rapprochais tous les deux, c'est cette forme-là, on parle de soi, on parle du monde, on parle de l'époque, et on parle vraiment plus, finalement, que de soi.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est soi-même une sorte de véhicule pour essayer de d'arriver à dire des choses ou de jouer avec tout ça. Bon, sinon, je me contenterais d'aller voir un psy, ce que je ne fais pas, j'aurais peut-être, mais... Voilà. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc oui, bien sûr que je vais continuer à écrire. Ça, c'est certain. On verra quoi. Mais oui, c'est au programme.
C'est au programme, hein. Ouais. Bien. Comment... Enfin, quand vous avez écrit, vous savez forcément qu'en parlant de gens qui sont vos proches, je pense notamment à votre ex-mari, à vos compagnes, est-ce qu'à un moment vous êtes dit, mais est-ce que là je vais pas trop loin dans la vérité, mais dans une vérité qui vous est propre et qui est peut-être pas la leur, et qui eux aussi vont avoir peut-être leur mot à dire sur, ont pas eu la même vision des choses. Est-ce que, enfin ma question en fait c'est, est-ce que vous aviez eu une censure à un moment, est-ce que vous dites ça, je peux vraiment pas le dire, alors que ça aurait pu avoir
toujours, toujours un peu de censure. Mais peu parce que tout à coup, quand on se met à écrire, en fait, c'est peut-être terrible, hein, la chose la plus importante, c'est le livre. Et si on écrit des choses méchantes, c'est pas pour être méchante avec les vraies personnes qui sont derrière les personnages. Tout à coup, tout ça n'a plus d'importance. Il n'existe plus que des personnages. On sait qu'il y a des gens derrière. Mais c'est plus ça. L'intérêt, c'est pas de parler d'eux. L'intérêt, c'est de dire... et même quand on est méchant, c'est de dire quoi? C'est pas de dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont nuls. C'est pas ça. C'est d'exprimer la cruauté de celui qui parle, la narratrice, le narrateur, moi, peu importe. Ce truc qu'on a aussi. hyper violent. Bien sûr qu'on est violent, et qu'on est violent même quand on aime, on est violent quand on désaime, on est... Oui. Et donc, ça, je voulais pas le masquer une seconde. Voilà, la seule personne avec, du livre, enfin, qui est derrière, je pense, enfin, non, j'ai quand même des choses, bien sûr que j'ai de la censure, mais ma vraie limite, c'est mon fils. Voilà. Je me retiens pas mal. Enfin, d'en parler.
Pour le protéger, oui.
D'en parler. Oui. Là, il y a une pudeur. Là, la question du personnage et de la personne est plus. Voilà, il y a moins de dissociation. Moins.
Quand vous dites il y aura d'autres livres, vous êtes déjà en train d'écrire, j'imagine. Vous êtes en recherche permanente d'écriture, d'histoire à raconter, votre histoire à raconter. Est-ce que le fait d'être devenu écrivain, en tout cas pour le grand public, d'être passé du statut d'avocat, a changé quelque chose dans votre rapport au monde ?
Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une dimension supplémentaire à la vie. C'est comme tout à coup avoir un super pouvoir, de pouvoir, c'est pouvoir créer, c'est-à-dire dans ce des choses, il y en a, des livres, il y en a, mais tout à coup on peut inventer quelque chose, et ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. Et Dieu sait que c'est difficile d'écrire, je pense, enfin, en tout cas pour moi, mais je pense pour tout le monde. Ça prend un temps fou, en fait, ça prend une énergie, hein, c'est quelque chose de totalement obsessionnel, c'est quelque chose de totalitaire, je pense, qui peut paraître relever du délire quand on est pris par ça. Enfin, c'est pas de l'ordre de la pulsion, hein, c'est de l'ordre de la volonté, parce qu'il faut rester assis, il faut, voilà, mais bon, c'est obsessionnel. Mais quel plaisir, bien sûr, oui, un plaisir fou à, voilà, tout à coup se dire. Je peux faire quelque chose. Enfin, hein. Et donc, c'est de l'ordre du super pouvoir, je vous dis. C'est génial.
Et dans la présentation au public, au lecteur, parce que c'est toujours délicat, en fait, on écrit avant tout pour soi, pour être lu, avec la volonté d'être lu. Mais.
Non, je pense pas qu'on écrive pour soi.
Vous l'avez pas écrit pour vous,
non.
Non.
Bah non. Ben non, sinon, moi, je sais pas, je regarderai la télé ou je lirai le livre des autres. Hein. Enfin, je n'écris pas pour moi. Par exemple, j'ai jamais tenu un journal, je ne vois pas l'intérêt. Si j'écris, c'est toujours dans la perspective d'en faire quelque chose, d'en faire un livre. De, voilà. Non, on écrit pour ce truc entre lecteur et vous, quoi. Oui, pour qu'il y ait un livre comme exactement de la même manière que quand on lit, ben voilà, c'est pour être de l'autre côté du truc, mais c'est exactement c'est ça. Non, on n'écrit pas pour. Enfin, moi, j'écris pas pour moi. Non.
Merci beaucoup, Constance Devray. On va passer aux questions du public. Il y en a. Sinon, on peut faire peut-être une lecture. S'il y a un passage que vous tenez particulièrement à lire, vous m'avez dit
tout à l'heure. Dites-moi si vous voulez que je vous lise.
Bon, moi, il y a un de mes passages préférés, mais je ne sais pas si vous avez envie de le lire, c'est celui sur votre coming out imaginaire. Mais bon, après.
Si vous voulez. Vous voulez ? Alors, on va finir là-dessus.
Oui, on va finir là-dessus.
Allez.
Si ça ne vous pose pas de problème.
Bien sûr,
je
l'ai écrit, donc je pense que
bien.
Je peux l'assumer.
Il est page 111. Hein.
Merci. Voilà. Dommage qu'il soit mort. J'imagine la scène. La nappe rayée, rose et blanche. Ludivine qui passe les plats dans sa blouse rayée bleue et blanche, mais avec un petit tablier blanc en plus pour le déjeuner. Le tablier de boniche, comme au théâtre. Pinta d'haricots verts, pommes de terre sautées, ou bien entrecôte, haricots verts, pommes de terre sautées. Je précise que j'adorais cette bouffe qui était toujours la même, et la nappe qui était toujours la même, et Ludivine qui était toujours la même. Elle était noire en plus, Ludivine, c'était chic, une bonne noire chez les Blancs, même si je crois que c'était pas voulu. D'ailleurs, ma grand-mère précisait toujours qu'elle était jolie et qu'elle avait du sang indien aussi, et peut-être chinois. Mais rétrospectivement, ça me paraît bizarre quand même, du sang chinois. Donc j'imagine, j'aurais attendu que tout le monde soit servi, et je leur aurais dit, mais spécialement pour emmerder emmerder mon grand-père que personne n'a jamais osé emmerder dans la famille, tellement ils en avaient tous besoin de sa grandeur, alors que c'était vraiment une merde, à mon avis. En tout cas, moi, c'est vrai, j'ai jamais pu le blairer, c'était physique, parce qu'il était petit, un peu gros et court sur pattes, parce qu'il mâchait ses pommes de terre avec les dents de devant, parce qu'il nageait tout droit à la verticale, parce qu'il ne se levait pas quand une femme entrait dans une pièce, qu'il ne savait pas conduire, parce qu'il croyait à sa propre importance, parce que c'était grotesque tout ça, tout ce petit cinéma, et qu'il était plouc dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses indignations, et que ça me fait bien marrer l'admiration des autres pour tout ça, comme si c'était les Kennedy, alors que question style, c'était juste hyper gênant en fait, et je vais même pas parler de leur morale, de leur petite morale de merde, mais tout ça naturellement c'est la même chose, donc je leur aurais dit, j'ai un truc à vous dire, cher grand-père, chère famille paternelle coincée. Parce que les aristos de maman, ils sont peut-être tarés et quasi analphabètes, mais au moins la vieille tante, elle couchait avec Arletty et tout le monde s'en foutait, parce que c'était quand même moins grave que les châteaux qui brûlaient et le magot qui fondait. Et puis leur obsession à eux, c'était la goutte de sang juif qui se balade, malgré les millions que ça leur a rapporté. Tu crois que j'ai le nez juif ? Mais du côté de papa, de toute façon, on a un grand rabbin dans la famille. C'est sûr, c'est un peu gênant. Mais maintenant qu'on est bien blanchi, on fait même genre ses classes. Donc je reprends. Chère famille paternelle un peu cul serré, que j'aime bien aussi, parce que j'insiste, ils sont souvent très sympas. Mais lui, le grand homme, et tout le soin qui m'avait bien fait rire quand je l'avais vu un jour dans son bain tout con avec sa bite de ministre qui flottait dans l'eau tiède, même si j'adore absolument porter son putain de nom, merci grand-père. C'est moins classe que ceux de maman, mais à la rigueur, je trouve ça plus marrant de porter le nom beauf que tout le monde trouve classe. Je vais pas me gêner. Et puis ce serait l'angoisse totale, une particule. C'est quand même plus possible de nos jours, les particules. Déjà que mon prénom est assez lourdement connoté, je reprends, oui, pardon. Ting, 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 couteau sur le verre. J'ai une nouvelle qui personnellement me réjouit comme d'en jouir et que je me réjouis toujours comme d'en jouir de vous dire. Attention, ouvrez bien vos oreilles, avalez bien votre bouchée, préparez le verre d'eau et les cachets, Ludivine les selles. Tout le monde me regarde, tout le monde m'écoute. Je bouffe des chattes, je suce des tétons, je glisse mes doigts dans leur joli petit cul. Grand-père, mamie, chères ontes, chère tante, ma chère Ludivine, je suis Gwyn. Bah alors, Ludivine, cette salade verte. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de domestique de nos jours.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.